Priorité santé. Claire Hédon.
Bonjour à tous. Nous faisons le point aujourd'hui sur l'épidémie d'Ebola qui a fait plus de 8400 morts identifiés sur 22 000 cas recensés. Les Nations Unies avaient fixé début octobre un délai de 90 jours pour isoler et traiter tous les malades contaminés par le virus Ebola en Guinée, Sierra Leone et Libéria, et forcé de constater début janvier que ce n'est pas encore le cas. Ebola, vous le savez, se caractérise par une très forte fièvre avec vomissements, diarrhée, provoquant dans certains cas des problèmes d'insuffisance rénale et hépatique, des hémorragies. Le virus se transmet d'homme à homme par les fluides corporels, sang, sueur, sécrétion. Le temps d'incubation est de 2 à 21 jours, période pendant laquelle les personnes ne sont pas contaminantes. Alors, on a entendu qu'il n'y avait pas de traitement spécifique, seulement des traitements pour les symptômes, mais aujourd'hui, des essais cliniques démarrent en Guinée, Sierra Leone, Libéria, Mali. Alors, où en est la recherche? Quels sont les essais thérapeutiques qui ont véritablement démarré? C'est ce qu'on va voir avec mes invités aujourd'hui. Le docteur Nathalie Garcia, qui est médecin du travail à RFI et dans le service des maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital Avicenne. Elle est partie comme médecin volontaire dans le centre de traitement Ebola de Macinta en Guinée, de la Croix-Rouge française. Avec nous également le professeur Christophe Rapp, chef du service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital d'instruction des armées Bégin à Saint-Mandé, c'est en région parisienne. C'est un des 3 établissements de santé de référence Ebola en Île-de-France. Ça veut dire que c'est votre équipe qui a pris en charge les 2 cas importés de maladies à virus Ebola en France. Un téléphone si vous avez envie de participer. Le 33 1 84 22 75 75. Et nous aurons également au téléphone dans cette émission le docteur Sakoba Keïta, qui est coordinateur national de la cellule de riposte contre la maladie d'Ebola au ministère de la Santé guinéen. Docteur Nathalie Garcia et professeur Christophe Rapp, bonjour.
Bonjour.
Merci
bonjour.
Vraiment à tous les deux d'être là. Nathalie Garcia, on est très content de vous voir revenir d'abord à RFI. Vous rentrez tout juste de Guinée. Vous allez nous raconter justement ce que vous avez fait. Professeur Christophe Rapp, on en est où du contrôle de l'épidémie dans les 3 pays concernés?
Alors, en ce début d'année, je crois qu'il faut délivrer une note d'espoir. Les plans de riposte sont bien en place et effectivement, on a aujourd'hui plus de 20 000 cas répertoriés par l'OMS avec des situations un peu hétérogènes. Une inflexion au Libéria, un début de contrôle en Sierra Leone et puis des résultats encourageants en Guinée. Bien entendu, ces résultats sont fragiles et on est actuellement dans la remobilisation dans un nouveau plan de riposte, notamment en Guinée, avec la campagne Zéro Ebola en 60 jours qui va renforcer les messages pour améliorer les résultats.
En gros, on est sur la bonne voie, mais on n'est pas encore au bout de nos peines. Et la crainte, c'est les moments où finalement l'épidémie donne l'impression de baisser et risque de redémarrer, c'est ça?
Alors la difficulté, bien entendu, c'est que les résultats sont fragiles, les résultats sont hétérogènes. Pour prendre l'exemple de la Guinée, en Guinée forestière et notamment à Macinta, les choses vont bien depuis quelques semaines, mais parallèlement, dans les districts proches de la capitale et à Conakry, il y a encore un certain nombre de malades. Il faut dire qu'il suffit de peu de choses, et notamment un enterrement non sécurisé peut bien entendu créer un pic de patients et de contacts et fragiliser les résultats. Donc il faut renforcer toutes les stratégies, et notamment le suivi des contacts et les enterrements sécurisés.
Beaucoup d'auditeurs nous ont demandé, mais quand est-ce qu'on va en voir le bout? Est-ce qu'on arrive maintenant à évaluer du quand on peut dire qu'on va terminer cette épidémie d'Ebola, ou c'est impossible à dire aujourd'hui?
Alors, toutes les tentatives de modélisation en santé sont toujours difficiles à valider. Et effectivement, on est déjà à un an d'épidémie avec une riposte assez tardive. Et on peut penser effectivement qu'on en a encore pour plusieurs mois. On va pas pouvoir réduire très, très rapidement. Mais
est-ce qu'on peut espérer en venir à bout à la fin de l'année 2015?
On peut espérer d'en venir à bout avant fin 2015, oui.
Ça quand même. Docteur Nathalie Garcia, vous revenez de Guinée, vous êtes partie comme volontaire en Guinée, vous étiez dans le centre de traitement Ebola de Macinta. Mm-hmm. Concrètement, votre travail consistait en quoi?
Alors, moi je faisais partie, j'étais l'un des 3 médecins expatriés envoyés en mission en renfort auprès de nos confrères guinéens qui travaillaient dans le CTE de Macinta. C'était eux qui étaient centre de traitement Ebola qui était donc géré par la Croix-Rouge française. Donc notre rôle,
trois médecins étrangers et combien de médecins locaux?
Alors, au CTE de Macinta, il y avait 5 autres médecins guinéens, donc qui travaillaient, qui étaient déjà en action dans l'épidémie, dans le combat contre l'épidémie depuis plusieurs mois. Et donc le rôle de cette mission de renfort était de leur venir en appui et de partager les tâches avec eux pour toutes les activités de soins.
Comment se déroulait une journée, par exemple?
Alors en fait, il y avait deux types d'activités médicales distinctes. Il y avait les médecins qui partaient, donc qui étaient affectés à la zone au risque, hein, donc toute la zone où se trouvaient les malades confirmés. Et cette activité consistait à réaliser les soins, à faire le suivi médical, à réadapter les prescriptions. Et il y avait un autre rôle médical qui était en fait de rester en back office, en zone bas risque, et donc cette activité de médecin consistait principalement à se charger des admissions des malades qui arrivaient, qui étaient transportés par la Croix-Rouge guinéenne, donc faire la procédure de triage qui consistait à les identifier comme suspects ou probables et donc les intégrer dans le CTE ou de les faire repartir comme non admis, et puis également d'assurer les différentes tâches de coordination avec les autres professionnels du CTE,
c'est-à-dire les infirmiers.
Alors coordonner l'activité des médicaux, hein, les entrées les sorties dans les zones au risque, mais aussi de faire le lien avec les autres partenaires du CTE, les psychologues qui étaient vraiment essentiels pour la prise en charge des patients, pour le soutien des malades, ce qu'on appelait les HP, les health promoters, qui étaient les agents de sensibilisation et de prévention, donc qui étaient chargés de qui en fait leur rôle était d'assurer l'accompagnement des malades qui sortaient du CTE, de favoriser faciliter la réintégration dans la communauté, et en amont de surveiller les sujets contacts. Voilà, il y avait et les hygiénistes qui étaient aussi les partenaires donc qui intervenaient auprès des médicaux dans la zone au risque, parce qu'ils étaient chargés de toutes les tâches de désinfection des déchets, des locaux, et donc il y avait tout, c'était vraiment un travail pluridisciplinaire. Et
En quoi consistent vraiment les traitements? Parce qu'on en a entendu, il n'y a pas de traitement spécifique, mais vous l'avez bien dit, il y a quand même des traitements qui sont donnés aux malades d'Ebola. En quoi consistaient les traitements que vous donniez?
Alors le traitement en fait reposait essentiellement sur un traitement symptomatique, c'est-à-dire prévenir ou corriger les symptômes donc déclenchés par l'infection Ebola. La base de ce traitement était quand même la réhydratation la plus efficace possible, la plus précoce possible et la plus abondante possible.
Parce qu'en fait, à cause des vomissements, il y a un risque de déshydratation. De vomissements et diarrhée risquent de provoquer une déshydratation.
Tout à fait. Les pertes digestives étaient considérables par des diarrhées profuses, des vomissements répétés.
Base du traitement, c'est la réhydratation.
La réhydratation et la renutrition autant que possible, si la voie orale était possible. Donc pour en revenir à la réhydratation, donc on essayait de maintenir la voie orale également, mais très vite on avait recours à la perfusion intraveineuse, parce que les personnes n'étaient plus en capacité de garder quoi que ce soit.
Professeur Christophe Rapp, je l'ai dit, vous êtes chef du service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital d'instruction des armées Bégin. C'est vous qui avez accueilli et qui avez pris en charge les deux cas importés de maladies à virus Ebola en France. Vous avez donné le même genre de traitement, mais est-ce que vous avez un peu plus de moyens? Qu'est-ce que vous arrivez à faire en plus qu'on a du mal à faire dans des centres de traitement Ebola en Afrique?
Alors c'est la question d'actualité, hein. Quel est le standard of care, quel est le traitement de support idéal pour les patients? temps, il est évident que dans les pays du Nord, la possibilité de faire de la réanimation intensive, le fait de pouvoir perfuser tous les patients et de les hydrater abondamment avec notamment des outils de biologie pour monitorer les pertes en sodium ou potassium améliore la qualité de la prise en charge.
Que les auditeurs comprennent bien, c'est là la différence en termes de moyens. C'est presque sur les examens biologiques que vous arrivez à faire pour surveiller ce que vous dites le potassium qu'on arrive à faire en France, qu'on n'arrive pas encore à faire dans les centres de traitement Ebola en Guinée, c'est ça? Nadia Garcia, vous ne pouviez pas le faire, ça.
Eh bien, il se trouvait qu'on a eu la chance d'avoir le laboratoire Pasteur qui s'est installé au CTE de Macinta au moment où notre mission arrivait. Donc, on a pu bénéficier de bilans biochimiques et qui nous permettaient de surveiller, d'évaluer en effet les pertes ioniques et puis surveiller et adapter les traitements.
Il y a aussi la notion collective dans les centres de traitement Ebola, du ratio soignant-soigné qui, bien entendu, n'est pas superposable à ce que l'on peut faire en Europe où on va mobiliser 30 à 40 personnes pour un seul patient. C'est une stratégie collective bien plus complexe.
C'est ça. Ça a été le cas, là, des deux cas Ebola en France. À chaque fois, 30 à 40 personnes mobilisées.
Oui, à titre d'exemple, sur la première infirmière hospitalisée, 53 personnes mobilisées, pendant 15 jours.
D'accord. Donc, on comprend quand même la différence de moyens. Expliquez-nous pourquoi c'est important de surveiller ce potassium. Et les autres éléments biologiques d'ailleurs.
Alors on peut penser que la surveillance de quelques paramètres biologiques essentiels permet d'optimiser le traitement, de l'ajuster et donc d'avoir de meilleurs résultats puisque le potassium, s'il est trop bas, peut donner des troubles cardiaques et donc on peut faire des défaillances cardiaques, etc. Donc il y a un enjeu majeur à pouvoir, ce qu'on appelle monitorer, surveiller quelques paramètres biologiques. Des études en Sierra Leone ont montré que si on utilisait ces outils, on avait une réduction de la létalité.
Donc c'est important. On va voir tout au long de cette émission quels sont les traitements, justement les nouveaux traitements qui sont en cours d'essai.
Priorité santé sur RFI.
Et aujourd'hui, nous parlons de l'épidémie d'Ebola. On fait le point sur cette épidémie avec le docteur Nathalie Garcia, qui est notre médecin du travail à RFI et qui revient de Guinée-Conakry, et le professeur Christophe Rapp de l'hôpital Bégin. On a au téléphone Ansoumane, qui est à Paris. Ansoumane, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute, Ansoumane. Vous êtes, je crois, guinéen.
Oui, je suis guinéen, originaire de la préfecture de Kégoni, précisément. Je viens de perdre mon oncle, mon cousin, qui était médecin à Zélé-Koué et qui était connu de beaucoup de médecins à Zélé-Koué. Il s'appelait Mouri Kamara. Et en fait, le problème que moi j'ai souligné pendant mes conversations avec mes amis, mes collègues, la famille et toute la famille, c'est que la maladie, elle est mal connue. Étant mon cousin étant médecin, il n'avait pas pu déceler. Pourtant, ils ont suivi des petites formations de base pour déceler les symptômes de la maladie. Du coup, lui, il n'a pas pu déceler les symptômes de la maladie parce qu'il a reçu une dame qui le soignait et que cette dame portait la maladie et que lui, il ne savait pas. Du coup, il a été soigné, il a soigné la dame et il a attrapé la maladie. Du coup, il est resté à la maison.
Et juste une question. Votre cousin, il est décédé quand?
Il est décédé il y a 3 semaines.
Il y a 3 semaines, donc tout récemment. Donc encore tout récemment. Oui. Je voudrais vous faire réagir là-dessus, professeur Christophe Rapp. Ce qui est très compliqué, c'est que justement, les symptômes ne suffisent pas du tout à diagnostiquer la maladie. Il faut un examen de sang.
Alors bien entendu, la fièvre ou les troubles digestifs qui inaugurent la maladie ne sont pas spécifiques. Ça ressemble notamment en Afrique beaucoup aux symptômes du paludisme. Et il est évident qu'on a besoin de ces outils biologiques qui ont été mis en place par des laboratoires de terrain. Et je voudrais insister sur un deuxième point que souligne monsieur. Ça souligne le problème de la formation. C'est une maladie qui jusqu'à présent était considérée comme orpheline puisque les épidémies avaient été peu nombreuses et assez rurales. Cet effort territoire de formation, la Guinée, les pays du Nord, par leur participation, sont en train de la mettre en œuvre. Hein, et il faut sensibiliser, bien entendu, tous les soignants aux symptômes de la maladie. Et c'est une tâche qui est bien sûr difficile.
Docteur Nathalie Garcia, vous l'avez dit, dans le travail qui était fait sur place à Macinta, c'est aussi justement d'aller au-devant des populations, d'informer. Le message qui était passé dans la population, c'est de dire quoi? Quand il y a justement fièvre et vomissement, il faut aller consulter dans un centre de traitement Ebola, c'est ça?
Alors, les messages de prévention... Très qui était vraiment diffusé, était de au moindre symptôme, à la moindre fièvre et moindre signe digestif, aller le signaler pour que il puisse y avoir le dispositif d'alerte qui soit lancé pour que ces personnes puissent être dirigées vers des structures adaptées comme les CTE.
En Soumane, je voudrais savoir pourquoi votre cousin, qui en plus était médecin, n'a pas abouti dans un centre de traitement Ebola.
Écoutez, il y a deux raisons. Du coup, le premier, c'est que la maladie n'avait pas été connue parce qu'il a été confondu à l'angine, au paludisme ou je ne sais pas à quoi d'autre. Et deuxièmement, quand ils ont soupçonné que c'était peut-être la maladie, ils l'ont caché et ils attendaient l'arrivée d'une équipe de médecins sans frontières. Du coup, le temps que l'équipe de médecins sans frontières passe à la maison, il était trop tard. Du coup, ils sont venus faire des prélèvements et l'envoyer au centre. Le temps qu'ils reviennent pour nous annoncer que c'était bien Ebola, c'était trop tard.
C'était trop tard. Vous aviez, je crois, en Soumane, une question à poser.
Oui, ma question, c'était vu que dans d'autres pays, il y a eu des vaccins, qui sont peut-être efficaces à 50%. Pourquoi ne pas administrer ces vaccins-là dans l'urgence dans ces pays affectés par le virus Ebola et en attendant que les recherches évoluent et qu'on aboutisse à un vaccin efficace à 100%.
Est-ce qu'on ne peut pas au moins essayer cela? C'est ça la question. Oui. Professeur Christophe Rapp, on en est où de ces essais sur les vaccins? Ce que j'ai compris, ils allaient démarrer à la fin du mois de janvier, c'est ça? Sur place, hein?
Alors, les essais vaccinaux ont débuté chez des volontaires sains dans les pays du Nord et ils vont débuter sur place incessamment sous peu, effectivement. Il faut bien comprendre que les vaccins sont réservés à la prévention de la maladie et il ne s'agit pas d'un vaccin curatif. Première chose. Deuxième chose, il faut pas mettre trop d'espoir dans les vaccins pour résoudre cette épidémie. Cette épidémie, on va la résoudre par la conjonction de plusieurs stratégies, le suivi des contacts, la sécurisation des soins, l'alerte précoce justement pour sensibiliser les communautés et faire transporter de façon sécurisée les patients dans les centres et l'importance de la médicalisation des patients. Il ne faut pas mettre trop d'espoir dans les thérapeutiques innovantes ou dans le vaccin. C'est pas forcément pour cette épidémie. Hein. On doit faire avec les moyens que nous avons actuellement et s'il y a une bonne conjonction de tous ces moyens, on devrait obtenir un résultat.
Et il faut forcément un peu de temps, quand vous avez dit les premiers essais sont sur des sujets sains, on veut savoir s'il n'y a pas d'effet secondaire, c'est ça en gros?
Alors ce qui est validé là au jour d'aujourd'hui, c'est qu'effectivement en termes de tolérance, les choses paraissent tout à fait acceptables, mais il faut bien dire que pour l'instant c'est une recherche en urgence avec peu de patients et qu'il faut encore franchir un certain nombre d'étapes avant de valider tout ça.
Même si ça s'accélère, il faut quand même du temps. Merci beaucoup en Soumane pour votre témoignage. On a Bobby qui nous appelle de Kaï au Mali. Bobby, bonjour.
Bonjour Claire.
On vous écoute.
Bien, moi je reste dans la même veine, c'est-à-dire des vaccins qu'ils veulent, sinon qu'ils sont en train d'expérimenter. Alors, est-ce que ces vaccins-là n'ont pas brûlé certaines étapes pour être homologués?
Alors, je pense en plus que ce que j'avais compris, Bobby, c'est que vous parliez pas simplement des vaccins, mais aussi des traitements, parce qu'il y a des traitements d'essais qui ont déjà démarré, et vous avez compris que ça n'avait pas suivi le chemin habituel, et quelle est la question que vous vouliez poser?
Voilà, mais maintenant, j'aimerais savoir, est-ce que ce n'est pas dangereux d'appliquer des médicaments qui n'ont pas suivi le chemin complet pour être appliqués sur des êtres humains? Est-ce que dans l'histoire... L'OMS a déjà autorisé une telle pratique.
Alors, professeur Christophe Rapp.
Alors, tout ça est bien sûr très encadré par l'OMS et effectivement, les épidémies de portée internationale justifient une réponse un peu particulière, un peu singulière. Et effectivement, dans la pandémie H1N1, on avait également été très rapidement sur les essais vaccinaux. Mais ça se fait dans un cadre tout à fait réglementaire. Hein, les médicaments ou les vaccins sont testés sur des modèles animaux et ils sont ensuite validés par un certain nombre d'étapes classiques. Donc il n'y a pas d'arrière-pensée sur...
Et on n'a pas brûlé des étapes, comme on dit. Si vous voulez bien, on y revient dans la deuxième partie de l'émission, professeur Christophe Rapp. On se retrouve dans 3 minutes, juste après les informations. Un téléphone, le 33 1 80 82 75 75.
Priorité santé. Claire Hédon.
Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie de Priorité Santé. Aujourd'hui, nous faisons le point sur l'épidémie d'Ebola avec le docteur Nathalie Garcia, qui est médecin du travail à RFI et qui est partie comme volontaire en Guinée, et le professeur Christophe Rapp, qui est chef du service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital d'instruction des armées Bégin, qui est en banlieue parisienne. Un téléphone si vous avez envie de participer, le 33 1 84 22 75 75. Professeur Christophe Rapp, juste avant les informations, on était en ligne avec Bobby Akai au Mali, qui est de nouveau avec nous, peut-être en ligne. Oui, absolument, il est de nouveau là, c'est ce que je vois. Il nous demandait un petit peu quels sont les médicaments qui sont actuellement testés. Est-ce qu'on n'est pas en train de brûler les étapes en voulant aller trop vite en essayant des médicaments?
Alors non, comme je le disais précédemment, c'est tout à fait encadré, mais l'urgence de la situation justifie aussi de mettre en place des études selon des concepts un peu nouveaux, mais en aucune manière il s'agit de choses dangereuses. Il faut effectivement saluer le rôle des pays du Nord et de la recherche collaborative avec l'Afrique, et notamment la France, qui est bien en avance dans ce domaine, puisque la première étude sur le terrain d'un médicament innovant pour la maladie à virus Ebola a débuté au mois de décembre en Guinée, et c'est le médicament favipiravir, avec une étude réalisée dans des centres de traitement.
C'est un antiviral japonais
qui a été utilisé chez 6 ou 7 patients expatriés avec des résultats intéressants. Il a été validé sur des modèles animaux. On a déjà des données de tolérance et de pharmacologie, et il est actuellement utilisé, et un certain nombre de patients ont déjà été inclus dans ces études. C'est une opportunité très importante, bien sûr, pour les patients guinéens.
Et ce qui est assez intéressant d'ailleurs, c'est que souvent les essais thérapeutiques, on essaye le médicament contre un placebo pour voir si finalement le médicament fait mieux que le placebo. Et là, justement, c'est pas contre placebo, il n'y aura pas deux cohortes dans ces essais de médicaments. Pourquoi ?
Alors, pour l'instant, effectivement, le deuxième bras de l'étude est une étude avec des standards de soins actuels qui ont été prédéfinis. Au plan éthique, bien entendu, les comités d'éthique nationaux et internationaux n'ont pas voulu qu'il y ait un placebo.
Parce que c'est quoi ? Ce serait une perte de chance ?
Tout à fait, tout à fait.
Dans les deux patients que vous avez soignés, justement, en France, est-ce que vous avez essayé aussi ces traitements, certains traitements innovants ? Et lesquels ? Ou est-ce que vous pouvez le dire, d'ailleurs, ou pas ? Ou c'est confidentiel ? Je pose une question discrète.
Il y a une clause de confidentialité, effectivement, sur ces thérapeutiques, mais des arrêtés ministériels ont été pris par la ministre, et il est évident que ça circule un petit peu en termes d'informations. Nous avons effectivement utilisé des thérapeutiques expérimentales chez les deux patients que nous avons pris en charge, avec des combinaisons de traitements, puisque l'axe futur, c'est aussi d'attaquer ce virus Ebola par plusieurs cibles. C'est assez logique, tel qu'on le faisait, par exemple, dans le VIH.
Et comment vous avez fait ? Vous leur avez demandé leur avis ? Ils étaient en état de donner leur avis à ce moment-là ? Ça s'est passé comment ? Je parle des deux patients.
Alors, que ce soit en France ou en Guinée ou en Sierra Leone, ces études se font avec le consentement éclairé des patients ou des parents pour les enfants mineurs. Il y a vraiment un cadre réglementaire très strict.
Docteur Nathalie Garcia, je l'ai dit, vous revenez tout juste de Guinée. Vous êtes rentrée il y a une semaine, vous étiez à Macinta. Comment sont vécus ces essais thérapeutiques sur place ?
Alors, malheureusement, Claire, je vais pas pouvoir trop m'étendre sur le sujet puisque je n'ai pas...
Il n'y a pas eu d'essai à Macinta, c'est
non,
ça ?
Non, en fait, voilà, c'est prévu pour les jours à venir, mais nous n'avons pas, enfin, mon équipe n'a pas eu la chance de connaître ce protocole.
Et comment est perçu autrement par l'ensemble de la population en général ces essais, ils savent hein, que les essais thérapeutiques démarrent en Guinée. Quel est le regard de la population
alors,
là-dessus?
De ce que j'ai pu vivre lors de ma dernière mission, la mise en route de ce traitement a suscité un espoir énorme. Et donc auprès des soignants, c'est vrai que notre référente pour ce protocole a présenté ce projet de mise en place du traitement, ça a été vraiment une ovation de la part des soignants. Voilà, ils attendent avec impatience la mise en route de ce traitement. Mais voilà, je n'ai pas d'expérience autre que le témoignage des soignants.
On a au téléphone Alain qui nous appelle de Lubumbashi en République démocratique du Congo. Alain, bonjour.
Bonjour.
Je crois que vous êtes médecin, Alain. On vous écoute.
Ok, merci beaucoup pour la parole. J'ai été intéressé quand j'ai appris qu'on parlait d'Ebola parce que moi-même j'ai vécu ça à la province de Bandundu. Mon inquiétude était au niveau où je ne sais pas si les autorités de Bandundu vont saisir et puis voir ce qu'on peut faire, voir un peu l'épidémie d'Ebola, comment ça a évolué. Quand ça a commencé au début, c'était un peu difficile. Il y a eu des morts qu'on ne savait pas encore au début, là c'était un peu compliqué. Il y a eu des morts. Et puis après l'arrivée.
Ouh là là, la ligne avec Lubumbashi se dégrade complètement, du coup impossible de vous comprendre. Je vais me permettre du coup de lire votre question, Alain Limba. Quand vous étiez interne, il y a eu une épidémie d'Ebola dans la région de Mundu, hein, en République démocratique du Congo. Certaines sépultures liées à l'épidémie faisaient comme des petites montagnes. Aujourd'hui, les enfants jouent dedans. Est-ce que ça risquerait pas au virus de revenir? Est-ce qu'il faut prendre des protections pour protéger, professeur Christophe Rapp? Qu'est-ce qu'on sait à long terme?
Alors c'est un virus, le virus Ebola est un virus fragile hein, et donc il résiste pas dans l'environnement très longtemps, il est très sensible aux dérivés chlorés. Si les gens ont été enterrés tel qu'on le fait actuellement de façon sécurisée et avec du chlore, il y a aucun danger. Donc là on est plus dans la rumeur, la réalité scientifique.
Est-ce qu'il y a des études qui vont commencer à être menées sur justement ceux qui ont survécu, ceux qui ont été guéris de ce virus Ebola pour voir à long terme comment vont-ils?
Alors tout à fait, il y a notamment un projet français de l'INSERM qui va être évoqué cette semaine, hein, d'un suivi de cohorte des patients convalescents pour évaluer à la fois la contagiosité, les séquelles et puis les aspects bien sûr socio-anthropologiques de la réinsertion dans la communauté avec le rôle bénéfique peut-être de certains patients guéris qui pourraient donner leur plasma pour servir de traitement à d'autres patients.
Leur plasma, c'est-à-dire parce que en fait ils auraient généré des anticorps contre le virus, c'est
alors,
ça?
Une des pistes thérapeutiques très importantes qui va d'ailleurs être testée à Conakry dans quelques semaines par les camarades de l'Institut d'Anvers, c'est le plasma de convalescence. Et donc, on va donner du sang d'un patient guéri qui a développé des anticorps protecteurs qu'on appelle anticorps neutralisants. Et ces anticorps vont être administrés à des malades et venir bloquer l'antigène qui est le virus Ebola. Donc, une très bonne piste thérapeutique.
On a Armand qui nous appelle de Goma en République démocratique du Congo. Armand, bonjour. Armand, bonjour.
Bonjour.
Oui, vous êtes en direct dans Priorité Santé, on vous écoute.
Ma question était comment le taux de mortalité de l'Ebola à l'Occident est moins faible par rapport à celui retrouvé en Afrique. Il y a des patients qui atteignent. Oui.
Je me permets de répéter votre question. Je suis désolée parce que la ligne avec Goma, c'est comme un peu avec Lubumbashi, c'est pas toujours très facile. Pourquoi il y a une telle différence entre le taux de guérison de ceux qui sont rapatriés en Occident et des malades en Afrique, professeur Christophe Rapp? Vous l'avez un peu évoqué, c'est la différence de moyens?
Il y a plusieurs facteurs. Il y a la précocité de la prise en charge. Les expatriés consultent plus tôt, sont souvent dans des circuits de soins et rapatriés quand même assez rapidement, ce qui n'est pas toujours le cas sur place. Et ensuite, c'est la possibilité de faire des soins de réanimation dans les formes graves, ce qui n'existe pas, bien sûr, hein, dans les centres de traitement Ebola sur le terrain.
Nathalie Garcia, une réaction par rapport à ça? Effectivement, le message à faire passer, c'est de venir le plus tôt possible. Les chances de guérison sont plus importantes quand on vient tôt.
Oui, tout à fait. Plus la prise en charge est précoce, plus on augmente les chances de guérir. Hein, pour parce qu'il faut désamorcer tout de suite, au plus vite, les complications entraînées par l'infection par le virus. Donc voilà, par le traitement symptomatique, réhydrater les gens, stopper les vomissements, essayer de stopper la diarrhée, mettre en route un traitement antipaludique systématique et puis antibiotiques aussi de couverture.
Enfin, pourquoi alors antibiotiques pour éviter qu'il y ait d'autres infections au même moment, c'est ça?
Parce qu'on considère que l'infection virus Ebola peut entraîner un état d'immunodépression qui peut favoriser l'émergence d'infections bactériennes qui aggraveraient le tableau.
Et antipaludéens, parce que bah, s'il y a un palud qui se rajoute par-dessus, au moins qu'il soit soigné, c'est ça?
Tout à fait, et on pense aussi que voilà, que du fait de l'immunodépression, ça, il peut y avoir un désamorçage d'un palud, on va dire, caché, latent, et qui compliquerait également le tableau. Voilà.
Professeur Rapp, vous avez fait la même chose avec les deux patients que vous avez soignés en France?
Alors pas tout à fait, puisque bon, pour le paludisme, on peut faire des tests, etc. On a plus d'outils biologiques. Par contre, il faut insister effectivement dans les pays du Nord sur la possibilité de transfuser le malade, de passer du plasma, de pallier aux défaillances d'organes. On peut dialyser en Afrique. La dialyse est quelque chose qui reste encore très rare, même dans le paludisme grave, etc. Donc c'est vraiment les traitements de réanimation qui, sur une fraction de patients, sur les 30 à 40% patients sévères à la deuxième phase de la maladie, qui vont faire la différence.
Quand vous avez soigné ces deux patients dans votre service, vous étiez équipé de la même manière qu'avec, c'est un peu ces tenues de cosmonautes, hein, c'est comme ça qu'on les appelle, parce que c'est l'impression qu'on a vu de l'extérieur, que ce qu'on voit en Afrique?
Alors c'est tout à fait superposable, hein. Les équipements de protection individuelle, hein, sont des tenues dont le mot-clé est l'étanchéité, hein, puisque c'est une contamination par contact.
Et la seule différence, c'est qu'il ne fait pas aussi chaud et que vous pouviez tenir un peu plus longtemps là-dessous que ce qui est le cas en Afrique, non?
La différence, c'est que dans les hôpitaux parisiens, on peut climatiser les chambres d'isolement.
Nathalie Garça, c'était difficile d'être sous cette combinaison? On ne peut pas tenir effectivement tellement plus d'une heure, c'est ça?
Alors, pour des mesures de sécurité, on limitait le temps d'intervention en zone au risque, donc en PPI, donc l'équipement de protection, à pas plus de 45 minutes. En pratique, on les portait largement une heure. Donc, bien évidemment, de faire le tour médical et d'intervenir auprès des patients en PPI le matin, c'était
en PPI,
agréable.
Hein, c'est
Personnel Protection Equipment. Voilà. Donc, c'était largement supportable le matin. Mais alors, par contre, l'après-midi, c'était vraiment une étuve. Hein.
Parce qu'il fait chaud et humide. On a au téléphone le professeur, le docteur Sakoba Keïta, hein, qui est coordinateur national de la cellule de riposte contre la maladie d'Ebola en Guinée. Docteur Sakoba Keïta, bonjour. Merci d'être avec nous dans Priorité Santé. Quels sont les derniers chiffres en Guinée sur l'épidémie d'Ebola?
Bon, le dernier chiffre, nous avons au total 2805 cas enregistrés avec 1813 décès, parmi lesquels il y a eu 2514 cas confirmés et 1529 décès.
Est-ce que le nombre de cas diminue ces dernières semaines?
Oui, nous avons constaté depuis à partir du mois de décembre que le nombre de cas a commencé à baisser. Mais dans ces jours-ci, l'incidence vraiment a commencé à baisser de façon significative dans pratiquement toutes les préfectures qui avaient auparavant notifié beaucoup de cas incidents.
Quel a été l'impact de cette épidémie sur le personnel soignant en Guinée?
Bon, je crois que nous avons payé un lourd tribut. Et nous avons à peu près 169 agents de santé qui ont été infectés. Et je veux parler de notre catégorie professionnelle de santé, le personnel auxiliaire. Donc, il y a eu 93 qui sont décédés. Et donc, voilà la situation qui se présente au jour d'aujourd'hui.
Le regard des Guinéens sur la maladie a-t-il changé ou y a-t-il encore de fausses croyances qui circulent?
Bon, je crois qu'il y a eu beaucoup de progrès, ce qui dénote actuellement là où la maladie a commencé, que pratiquement on n'a pas de cas notifiés là-bas dans ces derniers jours. Et donc cela dénote que la conception et l'attitude des Guinéens dans leur grande majorité a changé par rapport à Ebola. Ce qui dénote que notre nouveau plan qui est zéro Ebola en 60 jours, nous avons obtenu beaucoup d'adhésions. Mais cependant, puis encore, il existe dans certains foyers ou districts ou préfectures encore des persistances de rumeurs, soit disant que ce n'est pas une maladie qui existe, que c'est une invention, et que la pulvérisation que nous tenons, c'est des virus qui sont là-dedans que nous propageons. Et certains parlent aussi de voilà business. Donc voilà des idées qui encore contribuent à freiner un peu le contrôle de cette maladie dans certaines localités, bien qu'elle constitue une minime partie de
oui, c'est localité ça.
Par rapport au début de la maladie.
C'est ça, il y a quand même de moins en moins de personnes qui pensent ça. Nous, ça nous frappe en tout cas sur notre profil Facebook, là, sur les messages qu'on a. On n'a pas eu là cette fois-ci du tout de messages disant que c'était une maladie soit importée, soit qui n'existait pas. Donc on sent bien quand même que le message de sensibilisation passe. Docteur Sakoba Keïta, quand j'étais en Guinée au mois de septembre à Conakry, vous m'aviez dit que la fréquentation des services de santé avait diminué de moitié, c'est-à-dire que les Guinéens n'osaient plus se rendre dans les hôpitaux et les centres de santé. Est-ce que maintenant les Guinéens retournent dans ces centres de santé? Vous sentez une augmentation des consultations, ce qui est important parce que le risque à terme, c'est de décéder finalement d'un paludisme ou d'une femme qui ne peut pas accoucher dans un centre de santé.
De façon générale, la phobie à Ebola a beaucoup diminué et même dans les rues, on sent cela. Il y a moins de peur aujourd'hui à Ebola qu'au début de cette maladie. Par conséquent, cela échoue sur la fréquentation qui s'est nettement améliorée, mais nous n'avons pas encore atteint le niveau qu'on avait avant Ebola. Mais c'est que sur la plupart des formations sanitaires ont noté une amélioration de leur fréquentation durant les derniers mois.
Docteur Sakoba Keïta, l'aide internationale est-elle vraiment arrivée sur le terrain et est-ce qu'elle est suffisamment efficace pour vous?
Bon, l'aide internationale, c'est vrai que nous remercions tous ceux qui ont voulu contribuer pour mettre en œuvre les mesures de riposte. C'est vrai qu'au moment où on s'y attendait à l'aide, et il y a eu un léger retard d'arrivée sur le terrain, ce qui fait que nos prévisions ont glissé depuis des mois en termes de dispositifs à mettre en œuvre. Et ça, c'est un premier point. Le deuxième point, qui constitue l'effort et le souci de la coordination aujourd'hui, c'est l'utilisation efficiente de l'aide. Parce que vous n'êtes pas sans savoir, on a beaucoup d'interférences en termes d'intervention de beaucoup de partenaires sur le terrain. Nous essayons de voir comment nous pouvons, à chaque niveau, utiliser de façon rationnelle. Et jusqu'à présent encore, au niveau de beaucoup d'organisations, cette transparence que la coordination souhaite en matière d'utilisation de cette aide, nous avons encore des réticences à ce niveau pour livrer les détails des budgets qui sont en train d'être utilisés. Et nous pensons, on est en concertation avec l'UNI et les différentes organisations qui sont autour de nous, comment nous pouvons renforcer la coordination de façon transparente et faire la cartographie des interventions pour que nous soyons beaucoup plus efficaces dans nos interventions.
Tout à fait. Le nouveau chef de la mission de l'ONU pour la lutte contre Ebola, qui était justement en Guinée et dans les trois pays concernés, a bien dit à quel point attention à cette aide dispersée, il faut absolument qu'elle soit coordonnée. Il a aussi bien rappelé que ce sont les gouvernements libériens, sierra-léonais et guinéens qui conduisent et ce sont eux qui fixent la direction. C'est important de le rappeler que c'est vous en Guinée qui coordonnez. Quelles sont encore les difficultés persistantes pour vous, docteur Sakoba Keïta?
Bon, les difficultés de façon générale, nous avons la réticence de certaines communautés qui constituent un frein majeur parce qu'on ne peut pas arriver à bout de cette maladie sans obtenir une participation communautaire massive. Les préfectures ou les districts sanitaires qui ont montré leur solidarité vis-à-vis des interventions, Ebola n'a pas dépassé 60 jours. Donc nous, déjà, on a identifié les districts prioritaires. Nous pensons qu'en agissant de concert avec la communauté et les différents partenaires et acteurs sur le terrain, nous pouvons bel et bien réduire de façon significative le nombre de cas sur le terrain. Deuxièmement, il y a des problèmes de coordination, comme je viens de le souligner. Nous souhaiterions que toutes les organisations ici présentes se soumettent aux principes et aux règlements intérieurs de la coordination et à la transparence et la synergie d'action et non l'esprit de concurrence que certaines ONG ou agences ont en matière de, d'intervention. Nous nous élevons contre ça et nous le dénonçons. Et nous souhaiterons que le nouveau responsable de l'UMI puisse vraiment nous aider à coordonner les interventions des agences et que la transparence y est et qu'on oriente vraiment les fonds vers des trucs prioritaires définis par, par l'État guinéen. Parce qu'aujourd'hui, ça ne se justifie pas qu'on continue à construire des centres de traitement en bâche, alors que nous sommes, le nombre de cas a beaucoup diminué. Actuellement, le taux d'occupation est moins de 20%. Quand vous le mettez déjà sur la disponibilité des lits, on ne voit plus comment on peut continuer à construire des centres de traitement. Nous aurons souhaité construire des centres de santé et qui pourront être renforcés avec des unités de prise en charge des maladies à potentiel épidémique et former des équipes d'intervention rapide au niveau de toutes nos localités où il y a des hauts risques de survenir des épidémies de France en général et particulièrement d'Ebola. Donc voilà, on se situe dans cette logique pour qu'on puisse mieux rationaliser et reprogrammer certains fonds que nous avons afin que nous puissions bénéficier de l'impact de ces donations, même après Ebola, alors que les bâches vont être détruites. Et ainsi, on n'aura aucun impact et rien ne restera dans cette logique. Donc voilà un peu l'appel que je fais.
Oui, c'est important d'ailleurs ce que vous dites. Restez en ligne avec nous, docteur Sakoba Keïta, parce que j'ai encore une dernière question à vous poser, mais je voudrais d'abord faire intervenir le professeur Christophe Rapp. Vous êtes en fait ce qu'on appelle médecin militaire. Hein, l'hôpital de Saint-Mandé, c'est un hôpital de l'instruction des armées. Comment les médecins militaires se sont mobilisés justement dans cette lutte contre Ebola?
Alors, français, je parle. Le service de santé des armées participe à la réponse interministérielle de l'État français par différentes actions, à la fois d'envoi d'experts, de formation, et puis à partir de la semaine prochaine, de la mise en place d'un centre de traitement à Conakry, un centre de traitement plus spécialement réservé aux soignants qui sont sur le territoire guinéen.
Pour le personnel soignant. Docteur Nathalie Garcia, vous êtes ce qu'on appelle médecin réserviste et prusse. Moi, c'est quelque chose que je ne connaissais pas, je vous avoue, avant cette épidémie d'Ebola. Établissement de préparation et réponse aux urgences sanitaires, ça veut dire quoi être médecin réserviste et prusse? C'est justement être capable de partir d'un seul coup sur le terrain quand il y a besoin?
Donc être médecin réserviste, c'est comme être médecin réserviste à l'armée. Là, on est médecin réserviste auprès de l'État. Donc c'est un dispositif mis en place par l'État pour pouvoir répondre aux situations de crise sanitaire dans le monde. Et donc en tant que médecin ou infirmier, à partir du moment où on est réserviste sanitaire, on peut être mobilisé pour des besoins
dans le monde ou en France quand il y a une urgence aussi.
Tout
c'est
à
ça,
fait.
C'est ça, l'un comme l'autre. Voilà. Docteur Sakoba Keïta, j'ai juste une dernière question à vous poser. Est-ce que vous êtes d'accord que cette épidémie est très révélatrice de l'état de votre système de santé? Et je dirais, quelles leçons tirer de cette épidémie en termes de d'amélioration du système de santé? Je vous l'avoue que moi, j'ai été très frappée au mois de septembre quand je suis arrivée à Conakry, que je suis allée au CHU de Donka et que j'ai découvert ce que je vois dans beaucoup de pays africains, mais on est quand même dans le plus grand hôpital du pays qui n'avait pas l'électricité dans tous les services. Et par exemple, dans le service de maladies infectieuses, il n'y avait pas d'électricité.
Bon, je crois que le constat est très juste et l'épidémie est venue alors que le ministère de la Santé venait de conclure les états généraux de la santé. Donc tout ce que vous dites avait été déjà répertorié dans le diagnostic des maux qui frappent notre système de santé. Et c'est dans ces conditions de léthargie que l'épidémie est venue s'installer facilement. Nous pensons que nous avons tiré beaucoup de leçons, beaucoup de mesures déjà qu'on nous conseille étaient déjà consignées dans les conclusions de l'état général de nos services de santé. Et des mesures idoines ont été prises. Et l'hôpital Donka dont vous parlez, on avait déjà conclu avec la BID une rénovation totale de cet hôpital. Et la rénovation devait démarrer au mois de septembre. Voilà que l'épidémie d'Ebola vient retarder ce projet et que nous pensons qu'il va démarrer au cours du mois de janvier ou plus tard du mois de février. Donc tout ce qu'on reproche au système en matière de renforcement des capacités techniciens et des agents de santé guinéens, nous l'avons pris en compte ainsi que des infrastructures. C'est pour cela que nous voulons réorienter certains financements actuels et pour renforcer certaines structures sanitaires, surtout des préfectures qui ont été les plus touchées, et nous sommes en train d'élaborer des programmes de renforcement des capacités des agents de santé et avec certaines organisations, dont la France, pour que après que nous puissions continuer la formation des agents pour qu'ils soient plus aptes à riposter de façon précoce désormais avec les gens. Vous savez, on n'avait pas du tout de laboratoire de virologie capable de diagnostiquer Ebola. Donc avec les dispositions actuelles, nous sommes sûrs qu'on aura au moins 10 laboratoires dans le pays qui désormais pourra identifier ce virus-là rapidement et améliorer nos capacités pour le diagnostic aussi des autres maladies à potentiel épidémique.
Et je crois qu'il y a un projet aussi de rouvrir l'Institut Pasteur en Guinée.
Voilà, il y a un projet aussi de l'Institut Pasteur qu'on va construire en Guinée et rénover aussi Pastoria, qui est un institut de recherche avec financement de RUS, et que tout ceci sont des acquis de la riposte contre Ebola et nous pensons qu'ils viendront renforcer cette capacité que nous jugeons très faible par rapport à la dimension d'une telle épidémie.
Merci beaucoup, docteur Sakoba Keïta. Je rappelle que vous êtes coordinateur national de la lutte contre Ebola en Guinée. On arrive à la fin de cette émission. Professeur Christophe Frappe, peut-être un mot de conclusion?
Le mot de conclusion, je crois que c'est espoir et confiance. Hein. La riposte est en place. Il faut intensifier les différentes stratégies et de façon collective, avec la recherche et la collaboration des pays du Nord, je pense qu'on va pouvoir enfin endiguer cette épidémie.
Et cette recherche, vous y participez, vous?
Bien entendu.
C'est ça, hein, ça c'est important de le rappeler. Docteur Nathalie Garcia aussi, un mot de conclusion?
Oui, bah écoutez, moi je tenais vraiment à rendre hommage à tous les soignants de Guinée qui s'investissent, qui s'engagent sans relâche pour ce combat contre Ebola, tous les volontaires aussi de la Croix-Rouge guinéenne, de les agents communautaires, enfin tous ceux qui risquent leur vie et qui
ce sont eux qui sont en première ligne, hein, le docteur Keïta nous l'avait rappelé.
Tout à fait,
hein.
Ils en font les frais, mais ils s'accrochent sans relâche et se battent jusqu'au bout pour les malades et heureusement de plus en plus arrivent à guérir.
Ouais, le docteur Keïta l'a rappelé, hein, 93 décès de personnel soignant en Guinée, c'est absolument énorme. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus. On refera régulièrement un point sur cette épidémie d'Ebola. Demain, on va parler des hépatites. Vous savez justement qu'il y a un nouveau traitement contre l'hépatite C révolutionnaire, mais il coûte très cher. On attend vos téléphones au 33 1 84 22 75 75 et merci à toute l'équipe de Priorité Santé. À demain.